merci d'être venus si nombreux pour nous écouter ce soir.
Ce n'est pas fini.
C'est pas fini, je pense qu'il y aura la queue dehors bientôt. Donc on est ravis de vous avoir pour la présentation de ce livre auquel on tient beaucoup avec Jean. Et il faut rappeler que ça s'inscrit, cette soirée, dans un cycle un peu plus large, un cycle de conférences qu'on organise à l'Université Bordeaux-Montaigne au nom de l'axe Genre, corps et normes que je co-anime avec un collègue historien. Et dans ce cadre-là, on a organisé un cycle de conférences hors les murs autour d'une thématique qui s'appelle « Le corps face à l'extrême ». Et du coup, on a déjà fait une ou deux soirées, dont une au pôle juridique et judiciaire. On aura une le 3 février, encore une fois, au pôle juridique et judiciaire sur les violences de genre, violences familiales. Et là, ce soir, effectivement, on voulait présenter, toujours dans ce cadre-là, un roman cubain du début du XXe siècle, d'un auteur assez connu, Miguel Carrión, alors assez connu du public cubain, très peu connu ici, c'est pourquoi on a voulu le présenter. Mais du coup, je vais passer la parole à Jean, donc professeur émérite de l'Université Bordeaux-Montaigne, éminent spécialiste de Cuba, on va dire le spécialiste au niveau international, enfin parmi les plus grands spécialistes de José Martí, et qui n'a cessé de s'intéresser à José Martí et aux femmes cubaines. Et du coup, voilà, qui va nous présenter son travail.
N'en dis pas plus.
Non, je m'en tiens là.
Bonsoir à tout le monde. Je vais donner quelques éléments, si vous voulez, pour approcher un petit peu ce livre. Et ensuite, Mélanie en fera autant, mais nous serons relativement brefs, je le répète, pour pouvoir laisser un petit peu de temps afin d'échanger. Alors, très rapidement, je crois que le plus simple est de commencer par essayer de répondre à la question. Pourquoi proposer en France une édition de ce roman, Les Impures, dont le titre en général éveille un certain nombre de curiosités dans le public français, dont Las Impuras en espagnol, tout simplement, au public français aujourd'hui? Bon, en fait, il y a déjà de nombreuses années, ceux qui me connaissent le savent, que j'avais envie de réaliser et de publier en France ce roman. Il y a une vingtaine d'années à peu près, j'avais fait connaître en France un petit peu le grand roman populaire cubain du 19e siècle, Cecilia Valdés, qui est vraiment le grand roman de la société esclavagiste du 19e, le réquisitoire contre l'esclavage, la société esclavagiste, ses injustices, etc., qui a eu un relatif succès en France et a touché un grand public, ce dont je me réjouis. Il est dommage qu'il n'y ait pas eu de réédition depuis les années 90. Et si j'évoque Cecilia Valdés, c'est parce que il y a un point commun, il y a une continuité, dans la mesure où, dans Cecilia Valdés, je disais, c'est un grand réquisitoire contre l'esclavage, mais en même temps, l'auteur, Villaverde, s'intéressait beaucoup au destin des femmes. Au destin des femmes esclaves, bien sûr, en premier lieu. Il y a des choses extrêmement intéressantes dans ce roman. Les femmes de la grande société blanche, qui est la société des maîtres d'esclaves, bien sûr aussi. Déjà apparaissent les grandes bourgeoises dont parlera Carrión ensuite. Et puis, l'héroïne Cecilia Valdés, qui est une jeune mulâtresse, métisse, presque blanche, mais qui est condamnée dès sa naissance par la société à laquelle elle naît, pour être femme d'abord simplement, dans cette société patriarcale très machiste, pour être femme et pour avoir des ascendants de couleur ensuite. Eh bien, si nous nous transportons quelques décennies plus tard, donc dans les premières années du XXe siècle, nous nous trouvons à Cuba, dans un milieu, évidemment, qui a connu un véritable coup de tonnerre politique, puisque d'abord ça a été là. Bon, on a aboli l'esclavage enfin, très tard, tout à fait à la fin du XIXe siècle. Ensuite, les guerres d'indépendance à Cuba n'ont pas pu aboutir comme le peuple cubain le souhaitait, puisque ce sont les États-Unis qui ont mis la main sur l'île en 1898, en hissant le drapeau nord-américain à la place du drapeau espagnol, pour la fin de la colonie. Ensuite, le peuple cubain a connu 3 années d'occupation militaire nord-américaine à Cuba. Et ce n'est qu'en 1901-1902 que les États-Unis ont autorisé Cuba à s'instituer en République. Et ces premières années de la République, ce sont les années qui nous intéressent, vont être des années qui vont être marquées par une immense corruption généralisée dans la société cubaine, des dirigeants qui ne pensent qu'à s'enrichir et à profiter du moment présent. Dans une île, je parle des années 1910-1920, le roman Les Impurs est de 1919, il a été écrit en 1917-1918. Nous sommes, ce n'est pas un hasard, au lendemain de la Première Guerre mondiale, de 14-18, et cela a des grandes retombées à Cuba. On n'en parle pas souvent, mais les historiens le savent, de grandes retombées à Cuba parce que le prix du sucre de canne explose, c'est la fameuse danse des millions, l'île sera ruinée après, en même temps que le crack que nos ancêtres ont un petit peu tous connu, si vous voulez, mais dans les années 1910-1920, les classes dirigeantes cubaines croulent, si je puis dire, sous les richesses, sous l'argent, gagné facilement, et nous avons affaire à une classe dirigeante qui ne pense qu'à une chose, c'est en profiter, s'enrichir encore plus, abandonner toute valeur morale et ne pas s'occuper du tout du futur du pays, advienne que pourra. Et c'est au milieu de cette corruption généralisée que un auteur comme Miguel de Carrión, qui a déjà la double identité professionnelle, si je puis dire, d'être journaliste dans l'âme, et ça se sent au départ, et ensuite médecin, et médecin qui a connu l'œuvre de Freud en particulier, bien entendu, on est tout à fait en cette époque-là, et médecin, anatomiste. En 1917, il est professeur d'anatomie à l'Université de La Havane, et il va nous donner des romans très forts, dont La Simpuras en particulier, dans lesquels, justement, ces spécialités, si je puis dire, vont tout à fait se traduire, avec des tableaux que je qualifierais de tableaux véritablement cliniques de la société, justement, cliniques des personnages, avec des analyses de personnages psychosomatiques, peut-on dire, extrêmement marquées, avec une grande, sans faire de jeu de mots, une grande crudité et une grande cruauté en même temps. On y reviendra peut-être, c'est intéressant ça. Justement, qui va que nous allons avoir une fresque sociale de la Havane de ces années-là, et en même temps, la création d'un certain, et l'analyse au scalpel d'un certain nombre de personnages, notamment des femmes, mais pas seulement, qui vont nous intéresser énormément. Alors ça, c'est un petit peu le premier point. En parlant plus spécialement des femmes, puisque le roman est dirigé vers les femmes en particulier, il faut rappeler, Mélanie le fera tout à l'heure, qu'il fait suite à un premier roman qui s'appelait Las Honradas. On y reviendra, qui n'est pas facile de traduire en français. Ce serait Les Vertueuses, Las Honradas, Les Honnêtes Femmes. On pourrait chercher les termes qui en français et correspondait au 19e siècle, au 20e siècle, un petit peu à ça, les honnêtes femmes peut-être, les vertueuses, par opposition à la deuxième histoire, si je puis dire, qui s'appelle les impures, formant la grande dichotomie, honradas, impuras, effectivement. Il faut rappeler que même si l'esclavage était aboli, comme je l'ai dit à la fin du 19e, en 1919, quand Carrión écrit ses romans, les plaies de l'esclavage ne sont pas encore refermées à Cuba, loin de là. Abolie donc en 1887, en réalité, c'est 30 ans seulement avant la sortie du roman. 30 ans, vous le savez, ce n'est rien dans l'histoire des générations. Et beaucoup de femmes à Cuba sont encore, si je puis dire, des filles d'esclaves. Il faut en prendre conscience. Des filles d'esclaves. Et beaucoup de blancs et de blanches sont eux-mêmes des fils d'anciens maîtres d'esclaves. Et cela est important dans la société. Et de plus, en 1998, donc, il y a eu l'intervention nord-américaine et la grande frustration populaire de se voir refuser la patrie cubaine. On a donc une république sous contrôle permanent de Washington, d'une part, et d'autre part, dans cette grande frustration populaire, dans cette classe de profiteurs, de corrompus, qui vont essayer de profiter de la vie au maximum, au mépris des valeurs morales les plus élémentaires. Alors, Miguel de Carrión reprend ce grand thème du destin des femmes, effectivement, avec les armes du naturalisme, on l'a qualifié comme ça, comme Zola, Zola était son maître, bien sûr, mais pas seulement, les armes du naturalisme, avec des tableaux véritablement sociaux, sans concession, qui provoquent de front le public conformiste de son époque, ce qui en a fait, quand il est sorti, un roman véritablement sulfureux à Cuba, qui a été condamné par l'Église, condamné par le Vatican, condamné par toutes les autorités morales, disons, de La Havane, avec beaucoup d'hypocrisie, bien entendu, mais condamné tout de même. Un autre élément pour essayer d'être un petit peu complet, c'est qu'il y a, non seulement il y a les femmes et des hommes, nous allons en parler, mais il y a un grand personnage qui parcourt tout le roman. Ce grand personnage, c'est la grande capitale, c'est La Havane. C'est La Havane qui déjà, aujourd'hui encore, dans le roman cubain d'aujourd'hui, La Havane est très présente à divers titres, bien sûr, pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs, selon ses observateurs. Mais déjà, dans Las Impuras, La Havane est un immense personnage, extrêmement intéressant. Et on pourrait dire, sans faire de jeu de mots par rapport au titre, que La Havane, pour Carrión, c'est la grande ville impure. C'est la ville impure elle-même. C'est la grande capitale, hein, on peut dire, vraiment de l'impureté. C'est une peinture à l'eau forte de La Havane, la métropole impure. La corruption est généralisée, on l'a dit, avec la course au plaisir effréné, sans s'intéresser à l'avenir du pays. Cette société très machiste, sans aucune morale, sans pitié pour les femmes, ce qui est aussi la règle de vie de nombreux hommes de cette société cynique. Il y a ainsi des lieux emblématiques dans cette Havane. Il y a une topographie. Si l'éditeur, évidemment, avait été plus généreux, on aurait pu très bien publier, dans le roman, à la fin, par exemple, ou au début, on aurait pu publier une carte du centre de La Havane dont il parle, où se meuvent les personnages, et marquer les lieux, hein, du roman. C'est extrêmement intéressant. Il y a un travail de topographie de la part de Carrión qui est très visuel, je dirais, avant la lettre, qui est très cinématographique, finalement. Des lieux emblématiques. Un exemple. C'est le cas de la maison de la vieille Havane où Rogelio, Mélanie vous en parlera, qui est un jeune profiteur, hein, lâche, oisif et jouisseur, hein, où il enferme, c'est la maison où il enferme sa maîtresse, la sublime Teresa, car Carrión nous fait de sa maîtresse un personnage de femme sublime dans la vertu, sublime dans l'honnêteté, justement, oasis de vertu, comme disait Carrión, dans ce monde de pourriture, je le cite. C'est une maison d'hôte véritablement sinistre, de la rue, en plus, la rue de la Vieille Havane qui existe toujours. J'ai retrouvé à peu près, l'immeuble où se passait le. Il existe toujours. La maison de la rue Virtudes, c'est la rue des vertus à La Havane. Elle s'appelle toujours comme ça, la rue Virtudes, la rue des vertus. Non ironique, car cette maison abrite une communauté, de prostitution et de débauche. On y rencontre divers types de prostituées, dont vous parlera Mélanie aussi. Tout à l'heure. Il y a aussi dans cette maison des étudiants, mais quels étudiants? Des étudiants qui n'étudient pas. Ce sont des étudiants également les rois de la débauche, absolument, qui sont des filles de familles riches, qui sont enchantées de vivre dans cette maison pleine de prostituées. Pour eux, c'est formidable. Et ils passent leur vie dans la débauche, sachant, ils le disent eux-mêmes, ils proclament eux-mêmes constamment, que leurs pères respectifs leur trouveront ensuite un emploi confortable et bien rémunéré, sans qu'ils aient besoin ni de diplôme, ni de travailler. Alors, cela marque très bien cette maison, est vraiment tout à fait emblématique. Et Carrión entraîne aussi son lecteur dans ce qu'on peut appeler, nous, les, toutes sortes de virées, dans les virées diurnes et nocturnes de ces personnages masculins oisifs, riches et désœuvrés, pour lesquels les femmes apparaissent toujours comme des proies, faciles et vénales, bien entendu. Et puis, il y a aussi des personnages qui jouent un rôle d'interface, va-t-on dire, de charnière entre ces différents mondes. Il y a un personnage en particulier tout à fait truculent qui s'appelle Rigoletto. Rigoletto, personnage très complexe, apparemment grotesque, contrefait, avec une bosse, etc., etc., picaresque, et qui cache un cœur très sensible et sera finalement le seul ami sincère de Teresa, notre héroïne Teresa, dans ce monde sordide. Avec lui, avec ce Rigoletto, on est introduit dans les lieux les plus secrets de cette ville de péché et de plaisir. Rigoletto vit de quoi ? Il vit de la fraude électorale, c'est son métier. Un certain nombre de dirigeants de partis politiques le payent toute l'année à ne rien faire pour qu'au moment des élections, il trafique les listes électorales, tout simplement. Et on le voit trafiquer les listes électorales chez lui, à la lueur de la chandelle, avec sa grand-mère, la pauvre, qui a presque 100 ans et qui l'aide à faire la liste des électeurs. Enfin bon. Et il rectifie, il fait voter les morts. Enfin bon, vous imaginez tout ce qu'il peut faire, bien entendu. Et le reste de l'année, il est payé à ne rien faire dans ce type d'emploi fictif s'il en est, qui existait par milliers à La Havane et qu'on appelait en espagnol, qu'on appelle toujours à Cuba d'ailleurs, des botellas. La botella qui est une planque en français, si vous voulez. Une planque, un emploi fictif, c'est-à-dire un emploi tellement fictif, dans ce cas-là, la botella, qu'on passe des mois et des mois et des mois à ne rien faire absolument, et on est appelé à un certain moment juste pour faire une tâche particulière. Voilà. Alors, on connaît tout ce milieu-là, emploi fictif payé par des politiques, pour avoir des personnages comme lui à leur entière dévotion. Il y a un autre personnage aussi révélateur du monde, de ce monde truculent, qui s'appelle Veneno, poison. Et ce personnage est chauffeur de voitures de luxe. Vous savez, 1919, on est au début des voitures. On est au début des voitures et à La Havane, ce sont les premières grandes américaines qu'on a connues ensuite à Cuba, bien entendu, 1919. Et il est chauffeur d'une grande voiture américaine comme ça qui se loue avec sa voiture à des riches oisifs pour les amener dans tous les lieux peu recommandables de la capitale en général. Et le témoignage de ces personnages comme Rigoletto ou Veneno sont absolument précieux pour connaître toute cette vie, évidemment. Ce Veneno assistera même à une tournante, viol collectif, en pleine campagne, qu'il gardera comme un secret d'État. Il en est très fier et finalement, il le dit quand même à tout le monde. Et en particulier, Carrión s'en sert de ces personnages-là, évidemment, pour communiquer à ses lecteurs tous ses secrets, dans le fond, de cette ville en principe interdite. En principe interdite, parce que je terminerai d'ailleurs cette intervention sur cette idée, parce que ce qui règne par-dessus tout est résumé, je crois, par un mot, c'est l'hypocrisie. La grande hypocrisie sociale. Cette société est marquée par une profonde hypocrisie. Ce tableau sans concession que nous donne Carrión de cette corruption généralisée reprend une idée qu'avait apportée justement Villaverde dans sa Cecilia Valdés du 19e siècle. Pour Villaverde, l'esclavage était un cancer, une gangrène qui rongeait, qui affectait toutes les couches de la société sans exception. Villaverde avait démontré, qui faisait très moderne son roman, si vous voulez, que l'institution esclavagiste était corruptrice et elle corrompait aussi bien le pauvre esclave que le maître d'esclave, tout le monde, personne n'y échappe. Et cette idée est présente à nouveau chez Carrión, dans cette société début de la République. Pour Carrión, la corruption génère l'hypocrisie généralisée, aussi bien dans le monde public des dirigeants que dans le monde privé. C'est ainsi qu'il nous montre des dirigeants incompétents, incapables, certains sont analphabètes, dans un pays qui vit de la hausse vertigineuse des prix du sucre et de l'aide nord-américaine. Dans le domaine privé, les rapports hommes-femmes sont régis, j'en ai déjà parlé, par l'héritage de l'esclavage, relativement proche du patriarcat, du machisme violent et de la plus grande hypocrisie, qui consiste justement à classer les femmes en deux grandes catégories. Les deux grandes catégories dont nous allons reparler, évidemment, puisqu'elles sont au centre du roman, Le monde est vertueuse, la sonradas, blanche en général, épouse modèle et soumise, si possible, gardienne de la virginité comme un talisman pour elle-même et pour leur fille, bien entendu, et le monde des impures, toutes les autres, les femmes que les hommes considèrent comme des rebelles, celles qui ne sont pas d'accord avec le système, qui sont classées très rapidement dans le camp des impures, qui vivent seules ou vivent en monnayant leur faveur à un homme ou à plusieurs. Carion fait réfléchir son lecteur sur cette dichotomie. Et je terminerai par la question que nous pose Carion avec son roman, finalement. Où est la véritable honnêteté? Où est la véritable hypocrisie? Où sont les valeurs de la solidarité? Chez les vertueuses ou les impures? Etc., etc. C'est une des grandes questions qui se pose dans ce livre-là, qui vraiment sort du commun, et c'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers de le publier maintenant.
Merci, c'est à moi.
Je passe la parole.
Vous avez été rapide.
Mais je n'ai pas fini.
Ah bon, vous n'avez pas fini, bon.
Je préfère répondre aux questions.
Bon, alors moi, du coup, je vais reprendre quelques éléments dont a parlé Jean, mais en touchant davantage à ma partie, qui sont plutôt les aspects socio-historiques. Et du coup, oui, je voulais rappeler qu'effectivement, Miguel de Carrión, il s'inscrit dans une génération littéraire, on pourrait dire, donc de personnes qui sont nées à la fin du 19e siècle, pendant les guerres d'indépendance, et qui vont commencer à écrire au début du 20e. Et cette génération littéraire, elle est particulière parce qu'on appelle ça le roman social. Donc ils sont inspirés effectivement du naturalisme français, comme Balzac, Maupassant, Zola, mais avec une note caribéenne sur laquelle on reviendra. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces auteurs-là ne vivent pas de la littérature. C'est-à-dire que pour la plupart, ce sont des personnes issues des milieux assez aisés ou de la classe moyenne qui ont des professions libérales en général, avocats, médecins, et qui, du coup, se servent de la littérature comme un vecteur, comme une tribune publique pour pouvoir faire circuler un certain nombre d'idées pour dénoncer ce qui se passe dans la société républicaine, comme vous l'avez dit, totalement corrompue, des présidents qui s'enrichissent, qui sont la botte des États-Unis. Une hypocrisie morale sans nom et une misère énorme pour le peuple cubain qui vit dans une frustration énorme depuis la fausse indépendance, finalement, 1898. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Et oui, et dans ce contexte-là, Miguel de Carrión, qui est à la tête de ce mouvement-là, de ce roman social, lui, comme les autres, il est considéré un peu, enfin, on pourrait le considérer même comme un révolutionnaire, quelque part, puisque, pour le coup, ils vont être l'esprit critique. Cet esprit critique qui manque aux dirigeants. Et ils vont essayer, effectivement, de dénoncer un certain nombre de choses. Et effectivement, le réalisme qu'on trouve dans Les Impures, par exemple, ça reste sur des objets, détails, effectivement, des personnages, des traits de la psychologie, etc. Et ça donne une espèce pour l'historienne et l'historien qu'est Jean, c'est pour nous une source, finalement, une source historique, puisque finalement, on apprend énormément de choses. Dans ce cadre-là. Alors, pourquoi est-ce que Carrión, comme d'autres, a voulu mettre les femmes au centre du schéma narratif? Pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, parce que, d'un point de vue un peu littéraire, on va dire que cette influence du naturalisme, de Balzac, etc., a nourri cette influence. On peut penser à Nana, Thérèse Raquin, à Madame Bovary, etc. Donc, ce sont des galeries de femmes comme ça qu'on a déjà vues. Donc ils s'inspirent de ça, mais surtout ils vont mettre la femme au centre. Pourquoi? Parce que c'est la première victime, comme souvent dans les sociétés, c'est la première victime des crises que va vivre la société cubaine, de la misère, etc. Donc effectivement elles vont se retrouver au centre. Alors effectivement Jean a parlé de patriarcat. Alors effectivement, Cuba sort d'une société esclavagiste, donc l'empreinte est très forte, et le patriarcat est très fort aussi à Cuba. Alors il s'était un peu assoupli durant les guerres d'indépendance, puisque les femmes ont été mises à contribution. José Martí même les avait poussées à faire partie du mouvement révolutionnaire. Et donc effectivement, pendant un moment, elles ont pu jouer d'une certaine souplesse par rapport au patriarcat. Sauf que là, cette république qui normalement est censée justement apporter des droits nouveaux, etc., au contraire, va exacerber le patriarcat. Pourquoi? Parce que les hommes, les Cubains, là, je parle uniquement des hommes, vont être complètement frustrés, déjà par une indépendance dont on les a privés, ensuite par un chômage, une misère à laquelle ils vont devoir faire face, puisque la plupart des postes vont être pris par les Américains, ou, voilà, donc ils vont s'enrichir à Cuba. Et donc effectivement, il y a une espèce de frustration généralisée de la gente masculine, si je puis dire, c'est un peu réducteur, mais qui va pousser les hommes à essayer de retrouver un espace de pouvoir symbolique. Et cet espace de pouvoir va vraiment avoir lieu hein, grâce au patriarcat, et en particulier dans l'espace privé. Dans l'espace privé, il avait toujours été là, ce patriarcat, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le même modèle de la femme mariée. Hein. On est en 1919, la loi sur le divorce passe en 1918, donc le roman s'inscrit totalement dans cette période-là, ces débats sur le divorce et sur la condition des femmes. Mais pour le moment, effectivement, n'ont de valeur que les femmes mariées légitimement et qui sont mères de façon voilà, légale. C'est-à-dire que les autres n'ont pas vraiment de reconnaissance. Et la nouveauté, c'est que ce patriarcat soumission va aussi avoir lieu dans l'espace public. Pourquoi ? Parce que les femmes, malgré tout, vont avoir un accès plus important à l'espace public. Alors, il est tout relatif, puisque dans la première moitié du 20e, certaines femmes vont travailler, mais on dépassera guère les 9,8% de femmes qui vont travailler. Elles touchent des salaires de misère. En général, alors, le seuil de pauvreté à l'époque tourne autour de 75 pesos par mois, ce que touche 60% des travailleurs cubains. Et les femmes, bien souvent, se retrouvent avec 8-9 pesos pour une repasseuse. Ça peut monter jusqu'à 30 pesos pour celles qui travaillent dans l'industrie du tabac, mais guère plus. Donc, c'est une misère énorme. Il faut dire aussi que les femmes ont été obligées d'investir l'espace public au sortir des guerres d'indépendance, puisqu'elles ont été seules. C'est-à-dire que Cuba a perdu 20% de sa population. Et elles ont dû jouer les chefs de famille, entre guillemets. Il y avait énormément de veuves, d'orphelines. Et ce sont des milliers de femmes qui ont afflué vers les villes, en particulier vers la Havane, pour essayer de s'en sortir et de faire subsister leurs enfants. Donc effectivement, les solutions sont maigres, puisque comme solution, elles vont avoir le mariage légitime. Alors, il est réservé à une certaine population. Il n'est pas réservé à tout le monde. Et elles ont comme choix également le travail, mais on a vu que c'était assez réduit aussi, ou la prostitution. Et bien souvent, tout ça va être mêlé, puisque les salaires de misère vont faire que des milliers de femmes, alors là on ne parle pas de femmes marginales, hein, on parle de milliers de mères, d'épouses, de filles, vont devoir se prostituer pour subvenir à leurs besoins et pour pouvoir survivre. Un petit peu, j'ai avancé. Et donc le problème de la prostitution que va traiter Miguel de Carrión, il est énorme à l'époque, hein, et va s'ouvrir avec la République, la plus grande période de prostitution que Cuba ait connue, puisqu'on parle même dans les années 50 hein, de 10% de la population, ce qui est énorme. Après, on n'a pas de chiffre officiel, bien entendu, mais on sait que c'était d'une ampleur importante. Et dès le départ, la République... la société va s'employer à contrôler cette prostitution, à contrôler ces femmes. De quelle manière ? C'est bien simple, on va les regrouper. On va les regrouper dans des zones qu'on appelle zones de tolérance, douze euphémismes, hein, comme femmes publiques, etc., pour cacher bien souvent l'horreur de ces pratiques. Et donc, effectivement, la Havane, par exemple, va être découpée, pour ceux qui connaissent la Havane, la vieille Havane va être découpée en cinq zones de tolérance qui vont compter des maisons de prostitution. Des bayous, on appelle ça aussi des bayous. La Havane, on compte au début du 20e 234, Santiago 188, donc c'est assez important. Et on va regrouper dans ces maisons ces femmes pour les surveiller. Et la section d'hygiène, qui passera toutes les semaines, viendra les surveiller, leur faire des examens assez terribles d'ailleurs, hein, assez vexatoires. Et la section d'hygiène décrit ces quartiers hein, comme des quartiers complètement insalubres, des bourbiers marécageux, horribles. Donc, c'est assez terrible. Et là, deux discours vont s'opposer, si je puis dire, concernant la prostitution, parce qu'il y a un discours, le discours qu'on a hérité des pères de l'Église, le discours qui nous vient de Saint-Augustin, etc., qui veut que la prostitution soit un mal nécessaire. Un mal nécessaire, un rempart contre le viol, etc. Quelque chose, et dont va se servir la société, hein, les politiques, etc., pour justifier ça. Et de l'autre côté, on aura un discours justement plus, plus moderne, entre guillemets, et qui va prôner le fait que, les femmes ne, que la femme n'est pas une prostituée née et que ce sont les conditions économiques qui génèrent ça. Malheureusement, ils sont peu nombreux, ceux à prononcer ces discours-là, et même les féministes cubaines. Alors, c'est une minorité qui va pouvoir dénoncer ça. La plupart, elles sont accrochées à ces valeurs patriarcales, à leur position de femme vertueuse, mariée, etc., accrochées à leur position. Et elles ne vont pas politiser ce problème de la prostitution, contrairement aux Nord-Américaines, aux Argentines, etc., de leurs contemporaines, qui, elles, avaient pris le taureau par les cornes, si je puis dire, en matière de prostitution. Là, non, on n'a pas de solidarité féminine dans la prostitution. Je vais même juste vous citer cinq lignes d'un ministre. Hein, il a écrit à la femme d'un des présidents cubains, Prio Socarrás, pour se plaindre d'une possible loi qui fermerait les zones de tolérance. Et il lui dit ceci. Jusqu'où le gouvernement peut-il agresser le citoyen sans lui donner une compensation immédiate et concrète? Le gouvernement peut-il et doit-il supprimer ces maisons, se rend depuis toujours une partie importante de la population virile pour décharger le trop-plein de ses puissances les plus intimes et les plus dominatrices? Est-il licite que la sociologie dise à la biologie « je n'ai pas besoin de toi » Donc voilà, on voit bien que la protection ne viendra pas des politiques. Et dans ce contexte-là, c'est effectivement des gens comme Miguel de Carrión qui vont dénoncer ça et qui vont le faire très bien. Alors, dans Les Impures, on est très loin de l'image qu'on peut avoir, la fille de joie, la fille exotique, sur ce fond de sable chaud, hein, que peut être, auquel on peut penser des fois pour Cuba, on est très très loin de ça. Donc là, on va avoir une véritable casuistique de la prostitution avec un panel de prostituées, et elles vont être déclinées, on va dire, ce qui va les différencier, c'est l'argent, clairement, c'est-à-dire qu'on va avoir... un personnage qui est truculent, qui s'appelle l'aviatrice, enfin, c'est son surnom, hein, c'est Carmela, c'est l'aviatrice, donc elle, c'est vraiment la prostituée de luxe, on va dire, hein, qui vit dans les beaux quartiers de la Havane, sur le Malecón, qui a un très grand appartement, qui, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'elle est entretenue par des hommes très riches, des politiques, et elle a vraiment des attributs masculins, c'est-à-dire que elle a un phrasé très direct, enfin, c'est tribu masculin pour l'époque. C'est-à-dire qu'elle a un phrasé très direct, elle a un compte en banque, elle a un appartement, elle est domestique, et comble de tout, elle a même une maîtresse, une voiture qu'elle conduit à toute berzingue sur le Malecón, alors que les femmes ne conduisaient quasiment pas, et une maîtresse. Donc là, c'est encore vraiment le comble, mais c'est vraiment une manière pour Miguel de Carrión, je pense, de dénoncer un peu les travers du patriarcat, et voilà. Et cette aviatrice méprise, comme sa maîtresse, hein, méprise les autres prostituées, celles qu'on appelle des café con leche, hein, de café au lait, c'est-à-dire celles qui se vendent pour rien du tout dans la Havane. Et effectivement, on en a des personnages ici qui correspondent totalement à la réalité de l'époque, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, le cas de Blanche, qui est une Française. Et il faut rappeler qu'au début du XXe siècle, les prostituées françaises étaient très nombreuses à la Havane. Et elles étaient souvent victimes de la traite des Blanches qui partaient de Marseille, de Bordeaux, et les souteneurs français, hein, amenaient les filles à Cuba. Elles étaient très prisées parce qu'elles avaient des pratiques sexuelles que les Cubaines ne faisaient pas. Et donc, elles étaient très sulfureuses, elles étaient très recherchées, très demandées. Mais souvent très misérables. Hein, et elles étaient dans la Havane, elles vivaient très misérablement. C'est le cas de Blanche, là, qui est complètement exploitée. On a aussi le cas de la Espagnolita, on l'appelle la Espagnolita, donc elle n'a pas de nom, mais ça pourrait être une allégorie, on va dire, de toutes les Espagnoles, puisque la migration espagnole était importante aussi à Cuba à l'époque. Et beaucoup d'immigrés espagnols, les pauvres, venaient dans l'espoir de retrouver une personne de la famille. Elles étaient censées venir travailler dans des bodegas, des petits commerces de leurs cousins, etc. Mais bien souvent, elles se retrouvaient exploitées et elles étaient obligées de se prostituer. On a aussi le cas d'une autre fille dans le roman. Hein. Et là, c'est sa mère carrément qui la prostitue, puisque de toute façon, elle a perdu sa virginité avec un homme politique qui était marié avec des enfants et qui, de toute façon, l'a embobinée et l'a laissée... l'a déflorée, hein, il l'a laissée comme ça, et du coup la mère la prostitue et la violente, puisque de toute façon il n'y a plus d'autre issue. Donc effectivement, Miguel de Carrión dénonce bien ici l'appauvrissement moral de la famille, des mœurs, etc. Et il va insister aussi sur une figure tout à fait intéressante, qui est le proxénète, dont Jean a parlé tout à l'heure. Et le proxénète, c'est un personnage incontournable à l'époque, au début du XXe siècle. Pourquoi ? parce que déjà la Havane se divise en deux clans, surtout la vieille Havane, deux bandes de souteneurs. Il y a les Français et les Cubains. Et qui se partagent la Havane et qui sont ennemis, hein, complètement ennemis. Ils ont des surnoms, c'est-à-dire que les Français, c'est des Apaches, et les Cubains, les Guayabitas. Et donc, ils se livrent une guerre sans merci pour avoir les filles, etc. Et ils sont très violents. D'ailleurs, Miguel de Cayón en parle dans le roman, hein, de ces Apaches, et ils n'hésitent pas à violenter les filles, à les torturer même, puisque... Ils les frappent, ils les fouettent, ensuite ils leur mettent du vinaigre et du sel. Enfin, ça, c'était une pratique répandue qu'on retrouve dans des témoignages et qu'on retrouve là. Et se sert vraiment de l'histoire de l'époque, puisque à l'époque, il y avait un personnage que les Cubains connaissent très bien, qui s'appelle Yarini Ponce de León, Alberto Yarini Ponce de León, qui était un proxénète le plus connu de la Havane. Très distingué, très, très aimé, même adulé, on va dire, par une partie de la population, que ce soit des politiques, des femmes, qui le trouvaient très beau, un héros qui passait à cheval dans la Havane, aimé de tous, admiré par les hommes. Il renvoyait une espèce de virilité comme ça, terrible. Donc aimé de tous, des plus délinquants aux travailleurs, aux politiques, amis de tout le monde, et qui vivait avec cette femme et qui avait... je ne sais combien de filles à son service. Et il est tellement connu qu'il y a eu un film récemment, mais il a été tué justement par un Français, par Louis Letot, en 1910 à La Havane, puisqu'il lui avait volé la petite Berthe, une Française que tout le monde s'arrachait dans La Havane, et il lui avait volé. Et c'est impressionnant, parce que quand on regarde les journaux de l'époque, effectivement, aux obsèques de Yarini, il y a 10 000 personnes qui suivent le cortège, hein, dans La Havane, et qui accompagnent comme ça. Donc c'était vraiment... Et ce qui est intéressant dans le roman de Miguel de Cayón, c'est qu'effectivement, vous parliez du héros, non, du protagoniste Rogelio, là, qui est vraiment un sale type, et Miguel de Cayón l'a affublé de tous les défauts qu'on peut trouver à l'époque chez un homme, c'est-à-dire effectivement corrompu, violent, macho, menteur, enfin, terrible. Et donc finalement... et qui va tout abandonner finalement, qui va abandonner sa femme, qu'il traite vraiment comme la dernière des choses, sa maîtresse, qui a fait deux enfants et qu'il laisse moisir dans une petite chambre de la Havane, et même sa petite fille mourante. Donc ça, c'est le pire de tout, puisque Miguel de Cayón, comme les autres, est d'un pessimisme terrible, hein, donc il n'y a pas d'issue finalement, il n'y a pas de rédemption. Et il va finir justement par partir avec l'aviatrice, et tout quitter pour partir avec l'aviatrice. Mais l'intéressant...
Il s'était fait une espèce de petite vie, ce Rogelio. Il est une sorte de résumé pour Cayón, hein, dans son personnage, un résumé de la jeunesse dorée, oisive et inutile de cette époque, tout à fait. Et complètement fainéant par aussi le marché, qui ne veut rien faire. Et il s'était fait une petite vie... Il considérait lui-même qu'il vivait comme un bourgeois, tout à fait honnête et vertueux, entre sa maîtresse, Teresa, et sa femme, qui, comme il dit lui-même, à 30 ans, était déjà une vieille, édentée, horrible, décrépite, etc. Comment ?
36 ans.
36 ans, mais voilà. Bon. Et il vivait entre les deux. Et alors, comme c'est quelqu'un qui prétend avoir un certain nombre de principes moraux, eh bien, il fait un grand effort. Et ce grand effort consiste à vivre de la manière suivante. Tous les soirs, il vit chez sa maîtresse. Et sa maîtresse est chargée de le réveiller à 2h du matin, pile. À 2h du matin, il se lève, il s'habille et il va au foyer conjugal, où il termine la nuit avec sa femme et sa fille, la pauvre, qui est une petite infirme en plus, par sur le marché. Et il considère qu'il fait comme ça un immense effort pour satisfaire, n'est-ce pas, toutes les nécessités que la morale bourgeoise lui impose. Et ce personnage est vraiment... Et à la fin, il abandonnera, comme il dit Mélanie, aussi bien l'épouse que la maîtresse, pour partir avec cette aviatrice qui l'amène sur les routes de Cuba.
Sur les routes de Cuba, oui, oui. Mais du coup, c'est intéressant parce que Miguel de Cayón, il descend de leur piédestal ces hommes-là, quoi, ces hommes qui sont adulés par la société de l'époque et qui, en fait, sont vraiment des sales types. Et il inverse la tendance et il montre que les femmes, même prostituées, peuvent être vertueuses. Et c'est vraiment là tout l'intérêt aussi du roman, parce que la limite, elle est très fine. Il nous montre bien entre vertueuses et impures. Et malheureusement, les vertueuses dans le livre sont celles qui ont le destin le plus tragique aussi. Puisque Florinda, dont vous venez de parler, l'épouse du protagoniste, effectivement, qui a une trentaine d'années, 35 ans, qui doit tout à son mari, elle lui est redevable parce qu'il s'est marié avec elle alors qu'elle avait peu de moyens. La loi sur le divorce vient à peine de passer, donc elle ne peut pas divorcer, clairement, elle ne va pas divorcer, impossible, et donc il la maltraite, il l'humilie, mais elle reste, elle est résignée. Et voilà, et l'autre, l'héroïne, Teresa, qui elle, alors vraiment la plus vertueuse des vertueuses, va connaître aussi un destin tout aussi tragique. Donc il inverse réellement les codes et c'est vraiment passionnant à lire. Donc bon voilà, moi je crois que c'est ce que j'avais. Il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi lire aujourd'hui ce livre, quoi. Pourquoi s'intéresser à ces thématiques-là ? Parce que finalement, ce sont des thématiques, pour qui s'intéresse à Cuba ou pas, mais surtout à Cuba, qui nous renvoient à l'histoire de Cuba. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le Cuba d'aujourd'hui sans se plonger dans cette partie-là de l'histoire, le début du XXe siècle, la présence nord-américaine, toute cette montée de la conscience nationale due à ces frustrations et qui va venir de tous les secteurs étudiants, les secteurs féministes, les travailleurs, et qui vont amener jusqu'à la révolution de 59. Donc finalement, tout ça est intrinsèque à la société cubaine d'aujourd'hui. Alors pour ce qui est moi de ma partie qui sont les femmes et la prostitution, c'est absolument contemporain. Puisque c'est une thématique complètement transversale, qu'elle est transversale à tous les temps, tous les espaces, toutes les sociétés. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant de voir ces différents portraits, et même par rapport à ceux qui s'intéressent à Cuba, puisque la prostitution, elle existe toujours sous d'autres formes, elle s'est complexifiée, la révolution est passée par-dessus, donc bien évidemment, les femmes ont heureusement... prouver qu'elle pouvait avoir les mêmes droits que les hommes. Après, il y a des conditions aussi économiques qui font que ça ne peut pas disparaître, ni de Cuba, ni d'ailleurs. Mais c'est extrêmement intéressant, de mon point de vue, de se replonger là-dedans.
Nous avions pensé peut-être donner lecture de quelques passages. Ça peut être peut-être intéressant. Et comme il y a, je crois, un certain nombre d'hispanistes dans la salle aussi, je voulais dire deux mots simplement sur la tâche du traducteur, qui peut être intéressant aussi, mais seulement avec 4 ou 5 exemples. Bon, il est certain que, comme toujours, dans ce type de roman extrêmement riche, extrêmement ancré dans une époque et un contexte précis, surtout avec la topographie là, des lieux, etc., le traducteur doit se muer un petit peu en ethnographe, dirais-je, pour élucider de nombreuses questions de contexte et de langage aussi, et de pensée, bien entendu. Et dans ce travail, nous avons particulièrement travaillé les niveaux de langue, justement. Les niveaux de langue entre bon, le langage, bien entendu, très extra-diégétique de notre romancier, qui, je le répète, se comporte en scientifique, du corps et de l'âme humaine, c'est tout à fait ça. Donc il est vraiment l'observateur clinique, donc il se place à l'extérieur. Donc c'est vraiment le romancier qui se place au-dessus de la mêlée, n'est-ce pas, à l'extérieur du récit. Donc là, son langage ne présente pas de difficultés particulières de traduction. En revanche, comme il veut aussi être très fidèle à ce qu'il reproduit, il recourt lui-même au langage cubain de l'époque à La Havane à ce moment-là. Et en particulier dans le milieu de la pègre dont il rencontre, il y a énormément de phrases, d'expressions, de termes qui relèvent de l'argot. L'argot, réellement, de La Havane en 1919, c'est très précis. Or là, je reconnais que le traducteur a connu quelques difficultés parce qu'on a beau connaître et parcourir Cuba depuis un certain nombre d'années. Il y a de nombreux termes. L'argot cubain, tous les argots du monde, a énormément évolué. Et il y a des termes d'argot qui sont dans le roman, ici, pour 1919, qu'aucun cubain aujourd'hui ne connaît, ni ne reconnaît, qui ont complètement disparu de l'histoire de la langue, si vous voulez, et d'autres expressions qui ont changé complètement de sens. Donc là, il a fallu faire un travail assez poussé, même en consultant certaines presses de l'époque, ou bien des Cubains, disons, d'un âge assez avancé aussi, qui avaient des souvenirs de jeunesse, où on retrouvait un petit peu ce langage-là. C'est pourquoi, souvent, nous avons réussi à élucider à peu près 90%, si vous voulez, à peu près des termes qui se présentent à nous, au texte. Mais après, arrive la deuxième partie du travail du traducteur, c'est-à-dire trouver dans la langue française des expressions équivalentes quant au contenu et quant au ton, quant au niveau de langue. Ce n'est pas toujours possible. Et là où ça n'a pas été possible, eh bien, j'ai mis un certain nombre de notes en bas de page pour expliquer le terme. Il n'y a pas autre solution. C'est pour ça que c'est une édition. Certains éditeurs ne le permettent pas, pour des romans, je le déplore, mais là, nous l'avons fait. Il y a une soixantaine de notes faites par le traducteur qui permet d'expliciter un certain nombre comme ça de termes et en particulier d'argot, qui sont des notes assez brèves sur la topographie urbaine de La Havane, etc. etc. Bon, il y a des notes aussi donc, sur les termes espagnols équivalents en français. Des choses classiques. Par exemple, il y a une note, la note 11, sur la traduction entre le terme criollo en cubain, je veux dire, et le créole en français, qui ne désigne pas la même chose, comme les hispanistes le savent. Alors là, il y a une note, par exemple. Alors maintenant, l'argot de la pègre des prostituées ou des proxénètes. Alors il y a un tas de termes comme ça qui sont explicités. La note 20, par exemple, concerne le mot l'aviation. L'aviation. En espagnol, l'aviation en français, pas de problème. Mais encore faut-il savoir, c'est pourquoi nous l'expliquons, que l'aviation, parmi ce monde de la prostitution, consistait pour les prostituées à partir en voiture avec un certain nombre d'hommes qui les amenaient dans des endroits divers pour s'amuser avec elles. Et c'est comme ça qu'on nous dit que tel ou tel... Alors justement, cette prostituée qui est devenue très riche, justement, et très célèbre à La Havane, à qui on a donné finalement le nom populaire de l'aviatrice, c'est justement, nous dit Carillon, parce qu'elle était enchantée par la pratique de l'aviation, justement, avec tous les hommes de La Havane. Bon, ce sont des termes qu'il faut expliquer, évidemment, sinon on ne peut pas comprendre. De même, par exemple, le mot « suisse », « una suisse ». Le dieron una suisse a una mujer, à une femme. C'est ce que nous appelons, enfin, ce qu'on appelle, dans notre argot français, une tournante. Un viol collectif, tout simplement. Eh bien, là, on l'appelle Suissa. Mais là, c'est tellement un terme argotique précis de l'époque et du lieu que là, l'auteur lui-même, Miguel de Carrión, a mis une note, lui-même, pour l'expliquer à ses lecteurs. Donc, dans ce cas-là, le traducteur a reproduit la note de l'auteur, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'explications de ce type-là. Un autre mot, par exemple, qui est intéressant, la note 34, le mot « pagano ». Bon, « pagano » en français, c'est le païen. Un païen, au sens religieux. Il n'a pas de religion. Hein, païen. Mais il y a un jeu de mots en espagnol avec le verbe « pagar », payer. Ce qui fait que dans le langage, dans l'argot des prostituées, le « pagano », c'est une catégorie de clients qu'elles vont avoir. C'est celui qui doit payer absolument, qui paye toujours. Et c'est un terme péjoratif parmi elles. Es un pagano. C'est un payeur, finalement. Ce n'est pas un païen, c'est un payeur. Vous voyez le jeu de mots qu'il y a. C'est un payeur, c'est-à-dire à lui, on ne fait pas de cadeaux. Et ça correspond un petit peu dans notre argot boulevardier, un petit peu du début du siècle à Paris, aux personnages qu'on appelait ici le pigeon, le dindon. Enfin bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Voilà. Donc là aussi, il y a donc explication. Voilà. Et enfin, évidemment, il y a des notes qui expliquent la traduction, comme j'en ai déjà parlé, nous avons parlé de la honradas, la simpura, la fameuse grande dichotomie. Bien sûr, là aussi, la traduction est importante. C'est pourquoi on a conçu l'édition avec une longue présentation de Mélanie, avec des notes, ce qui permet de rendre l'œuvre parlante, si je puis dire, aussi bien pour des hispanistes que pour un large public. La Viatrice, chapitre 5. Alors, n'oubliez pas que nous sommes dans un roman. Mélanie a été très docte, mais ce n'est pas pour ça qu'il s'agit d'un traité universitaire. C'est un roman. Alors, dans la chambre de son coquet appartement de l'avenue du Golfe, où, bien qu'il fût près de midi, les voilages vermous s'étaient soigneusement tirés et où régnait une discrète pénombre, Carmela ouvrit les yeux en s'étirant et appela sa domestique. Celle-ci fit son entrée en la personne d'une petite Espagnole, rose, vive, avec des yeux malicieux et rieurs dans son visage espiègle. « Madame, quelle heure est-il ? 11h30 passée. » Carmela bâilla en étirant à nouveau ses membres engourdis de sommeil et se frotta les yeux des deux mains. Elle était à moitié nue dans le lit, à peine couverte par une nuisette qui ne lui arrivait pas aux genoux et dont le tissu abondamment ajouré laissait voir sa chair. Ses jolies jambes, un peu fortes mais galbées et aux chevilles fines, étaient totalement découvertes, croisées l'une sur l'autre, parées de bas noirs et jarretelles bleues, comme si elle était parée pour une exhibition. « À quelle heure est parti Pega Pega ?» Non, Pega Pega. En espagnol, on sait que le verbe Pega, ça signifie coller. Pega Pega, c'est un personnage dont on suppose qu'il est particulièrement collant. Hein, Pega Pega. « À quelle heure est parti Pega Pega ?» Elle faisait allusion à Angeline Sarmiento, l'aînée des filles de Don Rudecindo et l'un des amis qui contribuait à la maintenir et à qui la malicieuse petite servante avait donné ce surnom, car il passait la journée entière à appeler Carmela depuis le téléphone de son entrepôt. Il restait pour la nuit une ou deux fois par semaine, quand elle lui permettait, et s'échappait au petit jour, tremblant pour une réprimande du père qui était très sévère dans son foyer. « À 6h, je crois que le soleil ne s'était pas encore levé, » répondit la jeune fille. Carmela fit un geste d'ennui et de dégoût, et comme si elle se souvenait tout à coup de quelque chose grâce à une échange d'association d'idées, elle se retourna dans le lit et, après avoir palpé un instant entre les oreillers, retira un petit rouleau de billets de banque et dit d'un ton indifférent en le tendant à la servante, « Tiens, mets ça dans le tiroir. » L'armoire était ouverte en face du lit aux grosses colonnes de bronze et à l'intérieur, on apercevait le linge et objets en désordre, comme si en cherchant quelque chose, la maîtresse de maison sortait à pleine main son contenu pour le remettre sans dessus-dessous. La servante, que les coutumes de la maison prédisposaient à une familiarité excessive, exclama, en riant devant cet embrouille à mini, en rangeant l'argent, « Ah, on dirait qu'une armée de poules est passée par là !» Et aussitôt, changeant de ton, « Pega, Pega, vous a laissé ça ? Ce n'est pas un mauvais bougre !» Mais Carmela se mit soudain en colère. « Et le supporter, qu'est-ce que tu en fais ? Il est jeune et s'habille bien, mais il me retourne l'estomac. Il a de plus en plus mauvaise haleine. Si tu en veux, je t'en fais cadeau avec tout son argent. » Joséphine haussa les épaules, habituée aux sorties de sa maîtresse, et se mit à ranger les flacons, les jouets et les objets en argent de la commode. Cette pièce, selon une pratique fort répandue à Cuba, servait à la fois de chambre à coucher et cabine de toilette, et on pouvait y voir les traces des états de fortune à propriétaire et de la générosité des amants successifs. Sans se soucier davantage d'Angeline, Carmela se frotta à nouveau les yeux et dit en s'efforçant de se réveiller totalement, « J'ai encore sommeil. Qui est venu ?»« Anita, qui est en train de déjeuner à la salle à manger. Et qui d'autre ?»« Personne. Margot a téléphoné. Margot, c'est la maîtresse officielle de Carmela, l'aviatrice. Margot a téléphoné. On t'a aussi appelé le général et M. Pendales. Ils rappelleront plus tard. Ah, et le vieux Don Placido a aussi appelé. Un de plus du même style, s'exclama l'aviatrice. Et l'ordonna, pour chasser sa mauvaise humeur, dit à Anita qu'elle entre. La domestique, disait Margot, Anita, pour nommer les amis de la maison, dans un oubli total des convenances qui ne choquait personne. En revanche, les règles du respect étaient appliquées strictement aux hommes en fonction de leur position, malgré les surnoms burlesques par lesquels maîtresse et servante les désignaient parfois. C'est ainsi que le général, politicien influent et personnage redoutable dans les hautes sphères de l'État, avait droit à son titre militaire, l'avocat Pendales. Bon, soit dit en passant, pour ceux qui pratiquent l'espagnol et l'espagnol de Cuba, Pendales, aujourd'hui, c'est l'équivalent de pendejo. Il y a une signification très précise en cubaine d'aujourd'hui, et en particulier un homme qui n'a aucun caractère, qui ne sert à rien, etc. etc. Bon, l'avocat Pendales, criminaliste et grand analyste de la Constitution, était presque toujours Monsieur Pendales. Et quant à l'ancien usurier, à qui l'aviatrice soutirait péniblement plus de 100 pesos mensuels, pour le recevoir pendant quelques instants en milieu de journée, il était invariablement Don Placido. Tout à lui ajoutant en général le qualificatif quelque peu dédaigneux de vieux. Joséphine, qui était sortie pour exécuter les ordres de sa maîtresse, réapparut, suivie d'une jeune femme mince, brune le teint mat, et de jolies yeux sombres, vêtue d'une robe soie à mi-jambes, avec l'allure désinvolte d'un garnement. En entrant, tout en fixant son regard sur la nudité que Carmela exhibait avec complaisance aussi perverse même devant les femmes, elle s'écria, sans autre forme de salut, d'une voix aiguë de fossé, « Carmela, quelle paire de fesses tu as ! Jusqu'où vas-tu aller ?» Et elle lâcha une grivoiserie en faisant un clin d'œil et en nommant le général à propos de qui circulait certaines plaisanteries parmi les femmes de joyeuse vie. Carmela, flattée, cambra encore plus ses reins et se retourna même complaisamment pour qu'on puisse apprécier cette beauté dans toute sa plénitude. La fine soie de la nuisette, trouée de jours innombrables, ne cachait rien de la blancheur et des formes pleines et superbement réparties. Anita sourit avec envie et Roséphine, habituée à cela, s'occuper à plier très calmement le linge éparpillé sur les meubles. Bon, ça c'est la Carmela qui a été une des prostituées les plus populaires, les plus célèbres de La Havane à cette époque-là, et qui vivait avec, dans des règles de grande bourgeoise, si je puis dire, où on impose le respect dans les relations, comme vous pouvez le voir.
Bon, merci beaucoup.